des polars et des notes.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Évasion pour cette spéciale de des polars et des notes où nous allons remonter le temps et explorer l'histoire avec un grand et un petit H grâce à des romans tout récemment parus. Pierre-Yves est aux manettes pour piloter cette émission façon DeLorean de Back to the Future, améliorée puisqu'elle va nous envoyer au Moyen-Âge à Paris dans une communauté de femmes bénéficiant d'une liberté très surveillée, avant de nous permettre de remonter tout doucement jusqu'au dernier quart du XXe siècle vers des hommes en pleine mutation. Alors vous retrouverez bien entendu toutes les références de ces romans sur le webzine 404. Et comme nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser au sujet, dans son dernier polar, À l'ombre du pouvoir, paru à la série noire, Neely Tucker se penche sur l'ancien marché aux esclaves de la ville de Washington et sur l'origine des fortunes des bonnes familles noires et blanches de la capitale des États-Unis. Journaliste depuis plus de 25 ans au Washington Post, il connaît la ville comme sa poche et son héros, le reporter de guerre un peu cassé, Sully Carter, enquête sur le meurtre d'un jeune noir trop vite rangé au rayon des règlements de compte entre camés et dealers. C'est un très très grand polar, une belle enquête où vous pourrez écouter entre autres Days Like This de Van Morrison.
There'll be days like this, when there's no one complaining. There'll be days like this, when everything falls into place, like the flick of a switch. Oh, my mama told me, there'll be days like this, when you don't need to worry. There'll be days like this, when no one's in a hurry. There'll be days like this, when all the parts of the puzzle start to look like they should. Then I must remember, there'll be days like this, when you don't need an answer. There'll be days like this, when you don't need a chance. There'll be days like this, when you don't get the trade by that old Judas. And I must remember, there'll be days like this.
Voilà à Paris, dans le quartier du Marais, en 1310, sous le règne de Philippe le Bel, en compagnie d'Aline Kinner, qui a fait revivre le temps d'un roman, Le Grand Béguinage de Paris et les femmes qui le peuplaient. Pour être un roman historique abondamment documenté, La Nuit des Béguines, paru aux éditions Liana Levy, n'en est pas moins très très proche du roman noir par son intrigue. Bonjour Aline.
Bonjour.
Alors La Nuit des Béguines, c'est un peu les rois maudits, mais vu du côté des femmes.
Oui, les Béguines, en fait, elles ont été complètement oubliées, mais c'est un peu la même histoire que celle des Templiers. On a beaucoup parlé de Jacques de Molay, qui est monté au bûcher, qui est l'initiateur de l'histoire des rois maudits. Eh bien, à la même époque, à Paris, une femme elle-même est brûlée vive. C'est la première femme à monter au bûcher sur la place de Grève à Paris. Elle s'appelle Marguerite Porrette, et cette femme est une Béguine qui a été condamnée pour avoir écrit un livre hérétique.
Donc, comme vous l'expliquez dans le livre, brûler, c'est pas anodin, c'est interdire la vie éternelle.
Oui, c'est ça, parce que le corps étant réduit en cendres, le défunt ne peut pas, au moment de la résurrection, sortir, comme on le voit souvent sur les images du Moyen-Âge, de sa tombe, pour pouvoir entrer dans le cortège des élus.
Et donc ces béguines, alors parce qu'il faut expliquer ce que c'est, on est en 1310, normalement les femmes, elles ont deux solutions, soit elles entrent au couvent, soit elles font des enfants.
Oui, et celles-là, elles sont complètement marginales parce qu'elles ne sont pas mariées, donc elles ne sont pas soumises à l'autorité des hommes. Elles ne sont pas non plus des religieuses, contrairement à ce qu'on croit quelquefois, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de règles monastiques. Donc elles sont en fait complètement indépendantes. Elles peuvent travailler, elles peuvent gérer leurs biens, elles peuvent les donner en héritage à leurs compagnes, elles peuvent étudier. Elles ont une liberté incroyable que d'ailleurs les femmes n'auront plus avant très longtemps et que certaines n'ont toujours pas aujourd'hui.
Et comment vous expliquez que tout d'un coup, en plein Moyen-Âge, il y a Louis IX qui a décidé d'accorder une autonomie comme ça aux femmes? Est-ce que c'est parce que la France était en paix? Est-ce que...
Oui, il y avait à la fois un contexte économique qui faisait que la France avait énormément changé. C'est devenu une France non plus rurale, enfin elle était encore rurale, mais c'est devenu aussi la France citadine, avec une économie qui était basée sur l'argent, sur le commerce. Donc une opportunité pour les femmes de travailler, ça c'est important. Mais aussi une nouvelle liberté dans la manière d'exercer la religion, puisque dans ces villes, soudain, on voit arriver les franciscains, les dominicains, et même des laïcs qui viennent prêcher en français et non plus en latin, comme on le faisait jusque-là dans les églises ou bien dans les monastères complètement fermés. On va dans les rues, on va prêcher la foi, ce sont un peu des nouveaux apôtres, et Louis IX se considérait comme tel.
Mais il y a donc il y a une période un peu de prospérité, et on voit que dès que les finances baissent, toutes les minorités sont remises sous l'éteignoir.
C'est ça, c'est qu'on a, disons, ce qu'on appelait le beau Moyen-Âge, c'est 200-300 ans. Donc là, les femmes, elles trouvent une espèce de parenthèse bénie où elles vont pouvoir épanouir leur liberté. Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'à la fois l'Église va durcir ses règles et va faire rentrer dans le rang tous ceux qui sont un peu marginaux. On n'aimait pas les marginaux au Moyen-Âge. Et puis en même temps, va arriver la peste noire, la guerre de 100 ans. Et comme toujours, quand l'économie ou quand le monde va mal, ce sont les plus fragiles et souvent les femmes qui le paient.
Et donc, pour revenir au roman, il y a quand même une intrigue qui est proche de celle d'un roman noir. C'est-à-dire qu'Isabelle, une ancienne qui gère un peu l'hôpital, qui est un petit peu guérisseuse, conseillère, etc., accueille une jeune femme qui est complètement paniquée, qui s'appelle Maheu Larousse, et qui fuit un danger qui va rôder pendant tout le roman.
Oui, on ne sait pas très bien ce qu'elle fuit au départ. Elle est rousse, donc ça ajoute à l'angoisse des gens des femmes qui la recueillent, puisque le rousse est la couleur du diable. Donc elle fait entrer le malheur sans le vouloir dans le béguinage. On ne sait pas qui la poursuit. On sent que les dangers augmentent autour du béguinage. Et puis il y a aussi un autre fil qui, moi, me tient à cœur, qui est celui d'un manuscrit, le manuscrit d'une béguine qui brûle vive, justement, au début du roman Marguerite Porrette. Et ce manuscrit a été détruit au Moyen-Âge, il a été brûlé en même temps qu'elle, mais il en a subsisté des copies secrètement pendant des siècles. Et aujourd'hui, la seule copie qu'on ait, une copie très très tardive, qui est même fautive et en français, et on sait Enfin, des historiens croient savoir qu'il en existe encore une autre copie qui elle-même est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus proche du texte original, et qu'une communauté de femmes cacherait cette copie quelque part, pas en France. Voilà, donc ce manuscrit disparu, recherché par certains historiens, m'a servi de fil aussi pour monter mon suspense.
Il y a un autre fil alors, c'est Humbert, qui est un franciscain, et qui lui cherche Maheu.
Et
les franciscains, parce qu'on dit les béguines sont libres, etc., mais sont en liberté surveillée quand même, en liberté conditionnelle, parce que les franciscains ont autorité sur elles.
Bah, pas au début, c'est-à-dire que là, le roman lui commence en 1310, et en 1312, le statut des béguines va être interdit. Donc on est déjà dans une période où les taux se resserrent autour d'elles. Mais dans les tout débuts, les premières béguines, et même les premières béguines du béguinage royal au temps de Louis IX, étaient quand même beaucoup plus libres. Simplement, Philippe le Bel, donc, qui règne en France au moment du roman, lui déjà les a mises un peu plus sous la... Ils ont sous la coupe des frères prêcheurs, donc franciscains ou dominicains. À Paris, c'était plutôt les dominicains qui surveillaient le béguinage. Mais c'est une liberté surveillée, pas tant que ça. C'est vraiment à partir du moment où leur statut est mis en cause par le pape que là, tout va basculer.
Mais le pape, il est sous influence, puisque apparemment, il réunit son concile à Vienne, il met des années à le faire. Et en fait, c'est sous pression politique qu'il...
Oui, la papauté est assez fragile à l'époque et effectivement, Philippe le Bel notamment est un homme très sévère, très très rigoureux, qui veut qui assoit sa puissance face à celle du pape et qui veut le soumettre. Donc Philippe le Bel est un moyen de pression énorme. Et puis après, il y a aussi des évêques, notamment les évêques de l'Est, de Strasbourg, de Bâle, tous ces évêques-là qui supportent très mal les béguines et qui vont faire pression sur le pape pour faire interdire leur statut.
Parce que le problème, c'est quand même quand on met des femmes érudites, quand même relativement éduquées ensemble, c'est qu'elles se mettent à penser et qu'elles se mettent à penser pas forcément de façon très orthodoxe.
Et oui, évidemment, parce que les femmes du Moyen-Âge, enfin en tout cas au Moyen-Âge, étaient considérées d'abord comme des organismes humides et soumis à la passion et très peu à la raison. C'est-à-dire qu'elles, c'était d'abord des corps et très peu des cerveaux. Et voilà, ce qui se passe, c'est que certaines d'entre elles, effectivement, sont des mystiques érudites. À nouveau, je reviens à Marguerite Porrette, qui a écrit un livre qui est d'une une dialectique, d'une force intellectuelle incroyable, et qui remet en question la place des clercs. Donc ça, c'est ce qu'on ne lui a pas pardonné. Elle a été brûlée pour un livre, Marguerite Porrette, parce que elle dit, en deux mots, nous n'avons pas besoin de ces prêtres, de ces clercs, qui nous imposent soumission, pénitence et autres, sort réservé aux femmes à l'époque dans l'Église, pour accéder directement à l'amour de Dieu. Donc nous pouvons nous passer d'eux.
Et c'est ça le problème. Et en plus, il y a deux problèmes. Il y a le fait, la prédominance du clergé pour le prêche, et il y a le problème que l'État a besoin d'argent.
Oui, effectivement, les caisses du royaume sont vides. Philippe le Bel a beaucoup dépensé. Et donc, certains des règlements de compte dits religieux de l'époque sont aussi des règlements de compte économiques. C'est-à-dire que si il s'acharne tant sur les Templiers, c'est pas seulement pour des raisons de foi, mais c'est aussi parce que les Templiers, ils ont un trésor qui est quand même très important et il veut se l'accaparer.
Et donc, tout au long du roman, les béguines, parce qu'il y a une vraie intrigue de polar, les béguines vont faire preuve de solidarité face au pouvoir, face à l'Église. Et c'est tout ce que vous démontrez, c'est qu'il y avait une vraie solidarité, une vraie entraide entre ces femmes.
Moi, c'est ce que j'ai découvert, en fait. Mais là, on parle vraiment d'archives. Elles sont très peu présentes dans les archives. Mais ce qu'on voit dans les archives, c'est qu'elles donnent, que les riches donnent aux pauvres. Les riches béguines donnent aux pauvres béguines. Qu'elles, toutes ensemble, vivent en solidarité dans le grand béguinage. Mais pas seulement des béguines qui ont, par exemple, des merceries, comme on disait à l'époque, des commerces de la soie, emploient des sœurs béguines beaucoup plus pauvres et les protègent. Elles ont un rôle, vraiment un rôle social. Et donc, ce que j'ai voulu, c'est que effectivement, dans ce piège assez terrible qui leur est tendu, parce que c'est vrai, vous avez raison, c'est d'abord un roman avec un suspense, ce qui ressort, c'est que celles qui sont solidaires sont celles qui s'en sortent.
Ah bah c'est une très belle leçon et ce sera le mot de la fin. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que quand on dit retourner au Moyen-Âge, eh ben au Moyen-Âge, il y a des riches qui donnaient aux pauvres et il y a deux femmes qui pouvaient élever des enfants ensemble. Sans que ça pose problème. Voilà, c'était juste la leçon du jour. On va se quitter en musique. Moi, j'ai choisi une musique qui rappelle le Moyen-Âge quand même. C'est « Pauvre Rudebeuf ».
Ah, oh, j'adore. Mais alors, Rudebeuf a dit beaucoup de mal des Béguines, le méchant.
Ah, je ne savais pas. Désolé. il était avant, lui.
Ouais, mais il y avait déjà des Béguines en son temps et il en a dit beaucoup de mal.
Ah, mince. Bon, tant pis, on l'écoute quand même par John Bez. Merci beaucoup, Aline Kim.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Que sont mes amis devenus? Que j'avais de si prétenu, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Des amis que vent importe et qu'ils vantaient devant ma porte les importants. Avec le temps qu'arbre de feuilles, quand il ne reste le branche feuille que n'aille avec pauvreté qui m'atteint, qui de partout me fait la guerre, l'amour est mort. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mise en honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenu, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Tes amis que vingt importe et qu'ils vantaient devant ma porte les importants. Pauvre sans et pauvre mémoire, m'a dû donner le roi de gloire et pauvre rente. Et droit que le combisé vent, le vent me vient, le vent m'avance, l'amour est mort. Le mal ne s'est pas su venir, tout ce qui m'avait à venir m'est avenu.
Le roman de Dance Floor qui nous entraîne en 1969 à Los Angeles du côté de Cielo Drive. Bonjour Dance.
Bonjour.
Alors, c'est à propos de California Girls.
Voilà, de Simon Liberati au livre de poche. Alors, derrière ce titre qui fait référence à une chanson joyeuse et légère des Beach Boys, ton genre de musique, non ?
Presque.
Le livre est en fait une entrée fracassante et implacable dans les quelques 36 heures parmi les plus célèbres de l'année 1969. durant lesquelles plusieurs meurtres sadiques et ultra-violents ont été commis par les adeptes de Charles Manson, les membres de la famille, comme ils préfèrent se désigner eux-mêmes. Parce que la famille, c'est une communauté dingue qui vit de manière précaire et miséreuse, où on baise n'importe qui, n'importe quand, où on vit en dehors du réel. Bon, oui, évidemment. On vit en dehors du réel, en permanence sous substance, ça peut être pas mal aussi des fois, à la main de Manson qui utilise ses jeunes recrues pour assouvir ses délires, si c'est moins bien, et son besoin de puissance, son désir de revanche sur une vie ratée et minable. Manson, il est un peu mac, un peu voyou, beaucoup sadique et manipulateur et complètement dangereux. Et la famille, ce sont des femmes surtout, des filles très jeunes, paumées, en rupture de banc avec leur famille. Elles sont parfois déjà mères, parfois elles le deviennent au cours de leur séjour dans cette communauté, mais surtout elles sont en adoration presque mystique devant Manson, qui est à la fois amant, père, mari et guide spirituel. D'ailleurs, elles abandonnent tout pour vivre là et suivre la règle, comme au couvent.
Mais il est très très facho, en fait, Manson.
Ah ouais, ouais, ouais. Elle le part de toutes sortes de qualités surnaturelles, quand ce n'est qu'un manipulateur violent, égocentrique, qui a déjà fait des séjours en prison. Manson, c'est un type frustré, ça c'est la base de tout. En fait, il voulait être chanteur, musicien, il a écrit et enregistré des chansons d'ailleurs, et il a presque décroché un contrat, il a failli être quelqu'un, et depuis cet épisode raté, il en veut à tout le gratin d'Hollywood. Il est raciste, suprémaciste blanc, il hait les Noirs, contre qui il veut déclencher une guerre raciale qui les éliminera purement et simplement.
Au départ, son truc, c'était que les Noirs allaient gagner la guerre, mais comme ils ne sauraient pas se débrouiller, ils feraient appel à lui.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il cherche à chacun des crimes qu'il a ordonné à ses adeptes de commettre pour lui, à faire incriminer des Noirs en laissant des messages sanglants sur les murs qui sont censés berner la police. Les crimes, il en a commis dans le passé, mais maintenant, il a les filles et bien chargées de drogue en toutes sortes, bien endoctrinées, gavées de son soi-disant amour, effrayées aussi par la perspective d'être punies, voire rejetées, elles lui obéissent au doigt et à l'œil, hein, comme une armée de furies. Elle tue, sans haïr les cibles désignées d'ailleurs, sans culpabilité non plus, dans une sorte de frénésie de violence paroxystique. Manson, c'est le mal, avec un accent circonflexe, mais le mal aussi, bien sûr. Et les membres de la famille le craignent autant qu'ils trouvent un semblant de fraternité auprès de lui, un sens à leur vie minable et brisée, une force qui les rassure. C'est tout à l'envers du décor, en fait, hein, loin du glamour des années hippies, de l'Amérique triomphante et heureuse. C'est le côté pauvreté, dénuement, délaissé pour compte, et qui trouve là la sécurité qui leur manque dans la vie.
C'est un mec qui a marqué les esprits, parce qu'on en parle toujours à l'heure actuelle. Il y a, 200 références de musique, il y a Marilyn Manson, enfin, il a laissé une trace inoubliable dans l'histoire.
C'est un mythe, quoi. Alors, on connaît le meurtre de Sharon Tate, la femme de Polanski, alors enceinte de 8 mois, et ses amis. Un massacre de plusieurs heures, laborieux, maladroit, atroce, un cauchemar absolu. Et le récit donc n'est pas vraiment un roman, c'est plutôt une longue description précise, froide, par moments à la limite du supportable, de ces 36 heures dingues qui transforment le flower power en un bouquet de fleurs vénéneuses et tragiques. C'est un long récit hyper détaillé, jusqu'au malaise parfois quand même, sans jugement, sans parti pris, mais une longue apnée en enfer. Voilà. Et pour finir, j'avais suggéré d'écouter les Beach Boys quand même, évidemment.
Non mais parce que en fait, Manson, il a aussi écrit un titre de musique avec...
Plusieurs. Il a enregistré de la musique, il a écrit plusieurs choses et il paraît qu'il chantait fort bien, d'ailleurs.
Avec le frère de Brian Wilson, qui était
absolument,
le batteur des Beach Boys.
C'est ça, absolument. Il a vraiment failli être connu et avoir des disques et tout ça, passer de l'autre côté. Mais je pense qu'il était un peu trop dingue quand même. Ils s'en sont aperçus et ils ont coupé court.
Allez, on s'écoute les Beach Boys. C'est comment
voilà.
Tu dis ?
Heroes and Villains.
Ah là, c'est bien avec l'accent. Donc, on rappelle le titre quand même, c'est California Girls de Simon Liberati.
Simon Liberati.
Qui vient de paraître au Livre de Poche. Merci, Nancy Fleur.
Je t'en prie.
À bientôt, bye bye. I've been back in the city, I've been taken for lost and gone, and unknown for a long, long time. Fell in love years ago with an innocent girl from the Spanish and Indian home, home of the heroes and villains. Once at night, Cotillion Square divided, she was riding the rain of the bullets.
days, you know they said goodbyes. They started so long ago, head to toe, healthy, wealthy, and wise. Sunny down snuff, I'm all right by the heroes and
alors, quelques siècles plus tard, ce ne sont plus les Templiers qui sont désignés responsables des malheurs de la France. Nous sommes toujours à Paris, mais en 1942, et nous y retrouvons Léon Sadorski, toujours inspecteur principal adjoint des renseignements généraux chargé du rayon juif, et son créateur, Romain Slocum, qui vient de publier L'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors donc, nous sommes en mai 42 et déjà à Paris, un attentat dans un bistrot. Il y a deux morts, il y a des blessés. Et pour mettre l'ambiance de l'époque, les Juifs viennent tout juste d'être contraints de porter l'étoile jaune.
Oui, à partir du 7 juin 1942, donc voilà. Quelques jours après l'attentat.
Et Léon Sadorski est en goguette quand il découvre un cadavre de femme au cours d'un pique-nique. Et comme il reprend son travail après la blessure qu'il a eue dans l'affaire Léon Sadorski, il va se charger des deux affaires. Donc tout ça, c'est très, encore très en lien avec l'actualité.
Oui, l'actualité de maintenant, vous voulez dire?
Ben oui.
Oui, il y avait des, à l'époque, il y avait des terroristes. C'était pas du tout les mêmes, hein, puisqu'il s'agissait surtout de communistes, de jeunes communistes qui, enfin, depuis que Hitler avait envahi l'Union soviétique, enfin les communistes qui étaient très perturbés évidemment par le pacte germano-soviétique, enfin ils pouvaient se lancer dans la bagarre d'une manière plus compréhensible pour eux, c'est-à-dire la gauche et la droite reprenaient leur place, si l'on peut dire. Et donc effectivement, la première résistance armée, en tout cas, a été le fait, malgré ce petit retard, a été le fait des communistes et dont je montre les activités dans ce roman.
Il y a une dualité aussi, effectivement, entre le terroriste et le résistant. Et le fait des amalgames, c'est-à-dire que pour tout attentat ou tout acte de résistance, c'était un amalgame qui était fait entre juifs et communistes.
Oui, parce que il faut se placer du point de vue de la presse de l'époque, collaborationniste, aux ordres des Allemands, de l'administration de l'époque, qui est aux ordres de Vichy. Et les Allemands, comme Vichy, c'est la droite extrême. Et donc on est dans l'antisémitisme le plus total et la xénophobie française, bien française celle-là, depuis longtemps, depuis le début des années 30, c'est devenu extrêmement violent. Au point qu'ailleurs qu'en 1939, il a fallu faire une loi pour réprimer les excès d'insultes dans la presse contre les insultes raciales. Et donc forcément, l'administration française, la police française sont des gens qui pensent comme des gens de droite, farouchement anticommunistes et antisémites. Donc à l'époque, les juifs, tous les juifs n'étaient pas communistes, mais en Pologne, par exemple, pratiquement tous les communistes étaient juifs. Donc l'amalgame était assez facile à faire et donc depuis longtemps les antisémites et la droite française voyaient le complot judéo-bolchévique partout.
On peut faire le parallèle avec musulmans et arabes, enfin avec des choses comme ça qui se passent à l'heure actuelle. Et dans votre livre là, l'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski qui est toujours violemment antisémite et pétainiste, mais pas collabo. Mmh. Et dans ces affaires, dans l'affaire qui suit là, il m'a semblé moins concerné par les intérêts de la France que par les siens. C'est-à-dire qu'il poursuit toujours son envie de Julie Hudvac, sa petite voisine. Il s'arrange pour que sa mère reste emprisonnée. Mais il me semble moins concerné.
Ben, je pense que c'est une évolution générale, puisque je compte écrire encore plusieurs livres sur cette période, toujours avec le personnage de Sadorski. Et ce que j'essaie de montrer, et ce qui se fait même presque à mon insu, c'est que finalement le règne du chacun pour soi a tendance à augmenter. Et d'autre part que le fascisme, le nazisme et les régimes dictatoriaux ont tendance à extraire des êtres humains le pire. C'est-à-dire qu'on est capable du pire comme du meilleur, et une société qui est sous le fascisme, c'est arrivé en Amérique du Sud, c'est arrivé en France pendant la période 40-44, les gens deviennent, les gens sont transformés plutôt en mal. Sauf évidemment ceux que cela pousse vers la résistance, mais dans l'ensemble, la société française est une société au mieux attentiste et au pire immonde. Et évidemment, tout le monde se retourne contre les boucs émissaires, et puis tout le monde essaye de survivre, de manger, etc. Donc,
de devenir milliardaire.
Pardon ?
De devenir milliardaire.
Oui, donc il y a des gens qui se font énormément d'argent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui... Enfin, le problème du ravitaillement, en fait, se pose à tout le monde. Donc les plus pauvres ou les plus honnêtes le vivent très très mal, et les plus collabos, les plus malhonnêtes et les plus profiteurs se font des fortunes gigantesques du jour au lendemain, ce qui fait que coexistent, en fait, à Paris, par exemple, puisque je parle surtout du Paris de l'occupation et de la région parisienne, subsistent deux styles de vie, c'est-à-dire un style de vie assez malheureux et triste et terrible en hiver à cause du manque de chauffage, et puis un Paris extrêmement gai qui fait la fête, tout le monde, et puis d'ailleurs on va beaucoup au cinéma, on lit beaucoup de livres, on va au théâtre, même les navets font salle pleine au cinéma, et puis la mode parisienne est là, avec en 1942 les femmes n'ont jamais été aussi belles, aussi sexy, on montre les jambes, bon, le vélo est d'ailleurs un prétexte à montrer ses jambes. L'occupation, esthétiquement et même sexuellement, est une période très vivante, en fait, à Paris.
Mais il y a une question que je me posais, moi. Est-ce que Sadorski, comme je vous dis, semble moins à son affaire ? Est-ce que c'est pas déjà qu'il sent le début de la fin ? Parce que Hitler commence à avoir des soucis en URSS. Est-ce qu'il, en étant presque magnanime à certains passages de votre roman, est-ce qu'il n'est pas en train de se constituer une assurance pour plus tard ?
Alors, c'est le cas, mais il n'y pense pas tant que ça. C'est plutôt des gens autour de lui. C'est-à-dire que le lecteur, lui, va commencer... En plus, le lecteur, évidemment, connaît comment la fin de l'histoire, si l'on peut dire, au niveau historique et politique. Mais les gens, selon qu'ils sont plus ou moins clairvoyants, plus ou moins avisés politiquement ou militairement, il y a des gens comme... qui devraient être intelligents, comme le président du Conseil, donc le Premier ministre Pierre Laval, qui jusqu'au bout croit à la victoire de l'Allemagne, même quand c'est clair que tout est fichu pour les nazis. Mais il y a des gens, même parmi les collabos, qui commencent en 42 à se poser des questions. Tout le monde suit évidemment la guerre en Russie, c'est la grande actualité de l'époque, et puis il y a déjà une sorte d'angoisse, de parano du débarquement, mais ce sont plutôt les collègues de Sadorski qui s'inquiètent. Ses collègues reçoivent des enveloppes de la résistance avec des petits cercueils du genre tu vas y passer, des listes à la radio de Londres, de l'émission Les Français parlent aux Français, on lit des listes de condamnés à mort, c'est-à-dire que des policiers français en exercice en 1942 ont un peu les chocottes quand ils entendent que leur nom est lu à la radio et qu'on leur promet une condamnation à mort. Donc il y a certains policiers qui commencent à se poser des questions. Effectivement, il y en a, et on va le voir au cours du troisième épisode, qui effectivement commencent à prendre des assurances. Mais en ce qui concerne Sadorski, il est vraiment poussé par... il est légèrement incrédule parce qu'il a été tellement impressionné par son voyage en Allemagne, par la puissance du Troisième Reich, qu'il a du mal à croire que tout ça puisse s'effondrer. Il pense plus plutôt que tout ça va s'arrêter par une sorte de paix générale, on va rester sur ses positions, mais il pense que l'Allemagne va rester le centre de l'Europe, que le Reich est parti pour durer et que le gouvernement de Pétain également est parti pour durer. Donc lui, il pense plutôt, finalement, comme il est un personnage assez égoïste, il pense plutôt à ses petits plaisirs et à son obsession pour Julie. C'est pas tellement parce que les Juifs et qu'en la protégeant, il pourrait prendre une garantie, c'est plutôt qu'il la désire et qu'il est obsédé par elle.
Mais il y a donc juste à cette époque-là, au mois de juillet, il y a la rafle du Veldiv. Et là, ça occupe une bonne partie du livre et c'est absolument abominable. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a décidé de faire coucher, vivre 22 000 personnes dans un lieu qui était prévu pour 15 000 assis pour 2 heures. Donc il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau et c'est la canicule.
Ouais.
Et donc, les ordres, il y avait plein d'exemptions, il y avait plein de choses qui auraient pu être évitées. Oui. Mais dans l'atmosphère que vous décrivez très bien, avec les condamnés à mort virtuels et tout ça, les flics ont appliqué totalement les circulaires sans tenir compte des exceptions.
C'est-à-dire que la plupart des flics, en tout cas, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, bon, c'est pas un livre à thèse, c'est pas ça, mais j'essaie de faire le portrait d'une époque. Et donc, au passage, forcé de constater, comme disait l'avocat, que l'administration française a fait preuve non seulement d'une incurie totale et d'une désorganisation, bon, ça c'est bien français, mais aussi d'une froideur et à la limite d'une cruauté invraisemblable vis-à-vis d'une population. Juive et considérée comme étrangère, en fait c'est la xénophobie française qui a beaucoup joué, plus bon la propagande qui depuis des années serinait aux Français que tout était la faute des Juifs, etc. Des articles dans la presse montrant les Juifs comme ces espèces de tribus de sauvages, etc., qui peuplaient l'Est parisien. Donc quand les gendarmes et les policiers déjà, qui sont les gardes mobiles, tout ça, qui sont des types de la campagne, qui n'ont jamais vu de Juifs, etc., on leur dit que ces populations pouilleuses sont responsables de tous les malheurs de la France et qu'on prend enfin des mesures et que s'ils s'enfuient, il faut leur tirer dessus, bah, la plupart de ces policiers de base obéissent à la consigne, tout simplement. Par contre, la consigne qui est lue aux policiers des renseignements généraux puisque et la police judiciaire qui ont participé à cette opération, les consignes qu'ils entendent sont non seulement terrifiantes mais très compliquées, c'est-à-dire qu'il y a un nombre incroyable de dérogations, mais c'est tellement compliqué avec l'histoire de grands-parents juifs, d'âge, d'enfants de moins de 16 ans, de plus de 2 ans, etc., que même moi en écrivant le bouquin j'avais du mal à m'y retrouver, et que bon, un policier qui n'est pas forcément un grand intellectuel a encore plus de mal, et donc selon les caractères des policiers et leurs opinions, il y a eu la plus grande sévérité et il y a eu également des actes de généreux, enfin des flics qui ont dit, au lieu d'arrêter les gens, ils leur disaient on revient dans 2 heures, etc., avec un clin d'œil style barrez-vous. Mais le problème, c'est que quand on a une étoile jaune en plein milieu de la poitrine, cousue, et se sauver dans la rue, de sortir de chez soi alors qu'il y a des barrages partout, y compris de miliciens du PPF, donc qui eux sont des antisémites enragés, c'est très difficile de se sauver, même si on a bénéficié de la complicité d'une paire de flics bienveillants au début. Mais les grands responsables derrière tout ça, ce sont ceux qui donnent les ordres. C'est l'administration française, la direction de la police française. Et là, on voit par exemple le rôle du directeur Jean-François, qui était le directeur des grands directeurs de la police, responsable des camps de Drancy, de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, où Drancy, au début, on a laissé les gens mourir carrément de faim. Des gens comme ça ont donné des consignes absolument abominables et se sont montrés et ont fini par demander aux Allemands la déportation des enfants qui n'étaient pas du tout une
pour raison humanitaire.
Pour des raisons entre guillemets humanitaires, pour pas les séparer des parents, mais enfin bon, il fallait être complètement aveugle à l'époque, voyant en plus les conditions de départ des gens dans des fourgons à bestiaux plombés, 60 personnes par wagon avec juste une tinette et pas d'eau, enfin bon, et des gens mis à l'intérieur de tout ça, des femmes enceintes, des malades sur des brancards, etc., pour un voyage de 3 ou 4 jours vers la Pologne.
C'est le comble du cynisme.
Complètement hypocrite pour dire que ces gens-là, on leur faisait une faveur en les renvoyant chez eux.
Et c'est dans toute cette atmosphère-là que va enquêter Léon Sadorski. Il va poursuivre justement ses résistants et ses communistes. On s'apercevra que ce n'était pas aussi clair que ça, qu'il y avait des choses qui se passaient entre les résistants qui n'étaient pas très, 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 très sympathiques.
Oui, parce que je renvoie un peu tout le monde dos à dos, c'est-à-dire que dans la résistance, il y a des militants de base, ou même peut-être des cadres qui sont des gens extraordinairement courageux, sincères, et beaucoup ont été fusillés au Mont-Valérien d'ailleurs, parmi les communistes et à Châteaubriand, mais il y a, les communistes sont aussi des staliniens, donc comme à Moscou, sévit l'espionnite, et puis aussi les rivalités entre cadres, etc. Donc on condamne des gens à mort très facilement, et donc on crée un détachement spécial pour qui s'appelait le détachement Valmy, sur lequel la lumière commence à être faite. Et ces résistants, ils avaient leurs pistolets servaient plutôt qu'à abattre les boches, servaient en fait à éliminer des anciens communistes passés au PPF par exemple, mais aussi des résistants communistes soupçonnés de trahison ou d'en savoir trop, enfin bref. Et le fait qu'il y ait eu beaucoup d'arrestations a mené par la police, qui est la police qui faisait très bien son travail à l'époque, justement avec les brigades spéciales qui étaient aussi des tortionnaires, bien sûr, les dirigeants du Parti communiste clandestin ont commencé à penser qu'il y avait des traîtres parmi eux, ce qui n'était pas le cas, et donc à donner l'ordre d'exécuter de parfaits résistants staliniens qui dans le cas de Georges Désiré, par exemple, meurent tués par ses camarades en criant « Vive Staline !» par exemple.
Eh bien, merci beaucoup, Romain Slocombe. Pour en savoir plus sur toute cette époque et suivre les aventures de Léon Sadorski, moi, je vous recommande l'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski qui vient d'être sélectionné pour le prix Interallié et donc qui est paru aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Merci beaucoup.
Merci.
Alors, pour rester dans l'époque, on écoute Daniel Darieux, une charade. Merci, Romain Slocombe. À bientôt.
Merci.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Tout se trouve dans...
Après les béguines du Moyen-Âge et les horreurs de l'occupation, nous poursuivons notre remontée vers notre époque et accostons toujours à Paris en 1974, plus particulièrement avec un jeune homme qui sort de prison, Mitek, dont Richard Morgiev nous narre les aventures dans Les Hommes, qui est paru aux éditions Joël Losfeld fin août. Bonjour Richard.
Bonjour.
Donc Mitek, c'est un jeune homme qui aime les bagnoles, les superbes bagnoles volées.
Oui, surtout les voitures des autres.
Voler, les femmes fantasmées et la littérature.
Oui.
Et d'où il vient votre petit bandit juif, comme il se définit?
Alors, c'est une jolie histoire, parce qu'en fait, c'est un alias de moi, quand même. Pour être précis, j'ai voulu raconter une époque révolue, une ère révolue. Et j'ai utilisé un nom qui m'est, pour me porter chance, Mietek Breslauer, c'est le nom d'un de mes personnages d'un autre roman qui s'appelle Fausto. Et donc, j'ai exhumé ce nom et je l'ai donné à ce personnage qui est le héros des Hommes.
Alors, Les Hommes, c'est plus un roman noir, et c'est même un roman en noir et blanc, parce que ça commence, il a un mentor, Mitek, qu'il a trouvé en prison, et qui s'appelle Robert Lemort. Donc on voit bien que c'est un temps qui est un peu révolu, et qui va lui faire monter une sorte de start-up de la brocante pour officialiser ses activités et blanchir son pognon.
Oui, en fait, Robert Lemort, on le voit une fois vivant, ensuite de quoi Robert Lemort meurt. En fait, Mietek est innocent, hein, donc c'est encore un voyou, il est un perfecto, des Santiago, et il pique des bagnoles. Et Robert Lemort lui fait comprendre que d'abord, piquer des voitures avec des Santiago et des perfecto, c'est afficher voyou, et c'est pas bon. Et deuxièmement, qu'un jour ou l'autre, le fisc lui tomberait dessus parce qu'il n'a pas de revenus. Et donc, il attirait l'attention et un joli voyou, un beau mec, il ne se fait pas remarquer.
Et on a l'impression que Mitek, c'est un peu une transition. C'est-à-dire une transition entre le temps des beaux mecs et vraiment des voyous genre Gabin, Ventura, etc. Et les nouveaux voyous qui sont, comme en 1974, c'est l'arrivée de Giscard, plus libéraux, technocratiques, etc.
C'est votre remarque est très fine. J'ai écrit aussi ce bouquin pour, sans le souligner, sans le dire de manière, avec des gros mots et des gros sabots, marquer la fin d'une époque, la transition, les années 80, et c'est vraiment le temps, en fait, des voyous aux cheveux courts. Hein, c'est l'époque où il fallait être jeune, défoncer à la coke pour réussir. C'est un changement de temps, hein, un changement de paradigme, tout ce qu'on veut, quoi.
C'est donc, le début des hipsters.
Maintenant, on est hipsters. Bon, les hipsters et entre hipsters et Mietek, il y a quand même deux ou trois générations maintenant. Mais, oui, j'ai vraiment voulu écrire ça, un changement de génération. Et aussi, effectivement, que ce Mietek, Breslauer, on le voit évoluer. On le voit passer d'un état premier à un état... à la fin du livre, qui est complètement
différent.
Voilà.
On va pas tout
choisi,
dire.
En fait. Ouais, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on puisse choisir sans avoir des théories fumeuses ou sans avoir des prises de position politiques. En fait, Les Hommes, c'est un livre qui est bien politique, mais de politique humaine.
Mais vous le parsemez de symboles. Par exemple, Mitek, c'est un juif. Il boit du Vichy. dans un troquet qui est tenu par Madame Adolphe. Il est fan de José Giovanni, qui a quand même été condamné pour collaboration. Voilà. On a l'impression que Mitek, c'est la cicatrisation de la guerre.
Ah, c'est beau ce que vous dites. Vous le dites mieux que moi. Oui, je voulais aussi, si vous voulez, des idées préconçues. Il y a beaucoup de confrères, si vous voulez, quand ils écrivent, quand ils prennent un sale con, c'est un sale con de fasciste, violeur, pédophile, d'extrême droite. Vous voyez, c'est un peu facile. Hein, par exemple, si on prend François Mitterrand, il était décoré de la Francisque et théoriquement, il était de gauche. C'est bizarre, quoi.
Ouais.
C'est très bizarre.
Les gens sont plus complexes que ce qu'ils en ont l'air.
Carrément. Et puis, c'est une époque autre. Donc, moi, ce que je voulais écrire, c'est que, par exemple, pour José Giovanni, qui est un sale mec, vraiment, ce qui est incroyable, c'est qu'il a quand même sauvé sa tête. Hein, il était condamné à mort. Et il a été sauvé par Auriol, je crois. Eh bien, c'est un écrivain formidable. Hein, c'est un peu comme le procès qu'on fait à Céline. Moi, à la limite, qu'est-ce que j'en ai à foutre que Céline soit un fasciste? Je m'en fous complètement. Quand je le lis, je m'en fous. Je vois un homme qui a sauvé ma vie par la beauté de son écrit. Voilà, c'est ça qui compte. Donc, Mietek est un gars vachement simple, très écorché, et qui a pu tenir le coup aussi grâce au livre.
Parce qu'elle dit, il y a Madame Test, qui est sa voisine, une brave vieille, et qui lui sert un peu de mère de substitution. Et puis lui, il lui sert de fils de substitution. Et elle lui dit, t'es déchiré.
Voilà, comme le fils qu'elle a perdu. Et on verra que Mietek, en fait, voue une sorte de culte maternel à cette dame, Madame Test. Il est très fidèle. Même quand les gens disparaissent, Mietek, il reste avec eux. C'est un peu le propre des orphelins. Je connais bien le truc, car j'ai été orphelin. Ce sont des gens, en fait, extrêmement fidèles, puisqu'ils n'ont que ça.
Et Mietek, il est un peu déchiré, effectivement, mais c'est comme une image déchirée. Et petit à petit, cette image, elle va se reconstruire avec toutes les femmes qu'il va croiser.
Ouais, parce que, bon, d'abord, on ne peut pas imaginer d'hommes sans femmes. C'est très difficile.
Donc on a l'impression que Mietek, il est en morceaux, et chaque femme va recoller un petit morceau, et chaque femme est une étape.
Oui, enfin, bien sûr, c'est d'abord la première femme que l'on rencontre dans ce livre avec Mietek, c'est une prostituée qui est liée à Mietek par le sexe, mais pas aussi par la littérature. Hein, l'un et l'autre s'enregistrent des magnétophoniques en se lisant leurs histoires. Je pense que je voulais dire aussi qu'il n'y a pas d'histoire de désir sans histoire d'art, sans histoire de littérature, sans histoire de partage, quoi. Voilà. Enfin, et les femmes.
Et c'est, ils sont pas innocents, les livres, quoi. Elle lui lit Klaus Touriske et lui, il lui lit du Oscar Wilde. Donc
voilà.
C'est quand même. C'est très, très symbolique tout du long.
Oui, et elle l'amène indirectement à écrire. Parce que c'est un peu une passe. Hein. Cette femme, le dirige vers l'écriture. Ce qu'il veut, au fond, Mietek, hein, évidemment, mais il n'a pas le courage. Il n'a pas le courage de se le dire. Et puis, c'est un rêve fou. C'est un rêve que j'ai eu aussi. Ça paraissait invraisemblable d'être écrivain. Et on me disait, t'es fou, t'es complètement fou, c'est pas pour toi, tu peux pas être écrivain. Et Mietek, il dit ça dans sa tête, sans que ce soit dit dans le livre. Mais évidemment, c'est une sorte d'interdit.
Mais il est tout en paradoxe et en contradiction comme ça. Il veut absolument sa liberté, mais il ne fait que s'attacher à des femmes qu'il ne peut pas aimer ou qu'elles ne peuvent pas l'aimer. Il adore les voitures, les très belles voitures, mais en même temps, il se sent jamais aussi bien que dans des casses.
Bien sûr.
Chez des ferrailleurs où il s'installe même un petit chez lui.
Oui. D'ailleurs, moi, je voulais d'ailleurs, pendant un long moment de ma vie, hein, j'ai rêvé d'habiter dans une casse. C'est des milieux que j'ai beaucoup connus. Et même encore, maintenant, je suis vieux, quand je sens l'odeur du passé, parce qu'il y a des casses, il y en a encore, mais c'est pas exactement les mêmes casses que jadis, c'est très émouvant, quoi. Ça m'émeut profondément. C'est aussi pour ça que je voulais écrire ce livre.
Et voilà, on a sans arrêt, tout au long du livre, on a l'impression que c'est le passé qui tue le présent.
Ah, c'est beau ce que vous dites. Mais en vérité, il y a, grâce à la rencontre que fait Mietek, la rencontre d'une petite fille, il y a en fait un problème de choix, de devenir. Il y a bien un moment donné où c'est bien le présent qui va tuer le passé. En fait, si vous voulez, pour être écrivain, il faut accepter de tuer le passé. C'est très juste votre question.
Oui, c'est tout à fait ça. Et il accepte de tuer le passé en devenant quelqu'un.
Et en devenant pour lui, entre guillemets, une femme. Puisque, en fait, est-ce que je suis persuadé, moi, hein, je pense qu'être écrivain, c'est un métier de femme, c'est pas un métier d'homme. C'est le choix ultime. C'est quitter le paradis des voyous pour, entre guillemets, être une femme et écrire et assumer le rôle de père. Donner ce qu'il n'a jamais eu, puisque lui, il n'a pas pu... profiter de son père, patati patala, et donner à quelqu'un, un enfant, toute la sécurité, l'amour que lui n'avait pas eu.
Et c'est les filles qui font les pères, et pas les pères qui font les filles.
Mais bien sûr. Mais vous savez, c'est exactement.
Voilà.
Attendez, c'est exactement comme quand on parle de tableau. Hein. C'est pas vous qui regardez la Joconde. Hein. C'est la Joconde qui me regarde.
Et ben voilà, très belle phase de conclusion. Merci beaucoup Richard Meurgef. Je rappelle votre livre parce que c'est absolument magnifique. C'est Les Hommes, c'est paru aux éditions Joël Losfeld. Et dans le livre, il y a de la musique évidemment. Et on va se quitter avec Nino Ferrer, la Rua Madureira.
Et merci beaucoup. Hein.
Merci.
Jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer. Pour si peu de temps, et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé.
Retour en 2017, vous pouvez détacher vos ceintures après cet atterrissage en douceur en compagnie de Nino Ferrer. C'est tout pour aujourd'hui, nous nous retrouvons en octobre pour de nouvelles aventures littéraires bien noires. Bye bye.
Des polars et des notes.